VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Tatiana Mosso en direct du studio 13, du studio 9 de La Voix de l'Amérique. Il est 19h30 en temps universel et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Tout de suite, les titres de ce lundi 24 avril 2017. Cameroun, 10 ans de prison ferme pour le correspondant à Aoussa de RFI Ahmed Abba. Il est accusé d'avoir collaboré avec des islamistes de Boko Haram. Il compte faire appel. RDC, les autorités congolaises ont présenté à la presse une vidéo montrant ce qu'elles estiment être l'assassinat de deux experts de l'ONU tués en mars au Kasaï. Au Burundi, 2 ans de crise politique avec des violences qui ont fait au moins 500 morts selon l'ONU et 2000 selon les ONG et poussé près de 400 000 personnes à l'exil. Et nous reviendrons sur le premier test grandeur nature du vaccin le plus avancé contre le paludisme qui tue chaque année des centaines de milliers d'Africains. Et puis ne manquez pas dans cette édition votre rendez-vous avec les sports et la Minute Éco. Nous ouvrons ce journal avec cette nouvelle au Cameroun. Le tribunal militaire de Yaoundé a prononcé une peine d'emprisonnement ferme de 10 ans à l'encontre du correspondant de RFI en Aoussa, Ahmed Abba. La défense d'Ahmed Abba, qui clame toujours l'innocence de notre confrère, a déjà annoncé qu'elle fera appel. Timothée Donangmaï a joint Denis Kwebo, président du syndicat national des journalistes du Cameroun.
La main des juges du tribunal militaire a été très lourde contre notre confrère. 10 ans d'emprisonnement ferme, ce qui choque toute la communauté nationale des journalistes du Cameroun. Nous sommes sans voix. On ne s'attendait pas à cela après tous les appels à la clémence, après que nous ayons exprimé notre préoccupation face à des charges sans preuve matérielle suffisante.
De quel recours dispose le confrère ?
Le confrère, ses avocats ont indiqué qu'ils vont aller à la cour d'appel. Aujourd'hui, on n'est plus en droit de s'attendre seulement à la sagesse et l'intelligence des juges de la cour d'appel. Il est question pour l'autorité en charge des poursuites d'entendre tous les appels à la clémence, à la pondération, parce que la criminalisation de la profession des journalistes se manifeste à travers ce nouveau verdict.
Et on prend la direction de la RDC où les autorités congolaises ont présenté lundi à la presse une vidéo montrant ce qu'elles estiment être l'assassinat de deux experts de l'ONU tués en mars dans le Kasaï, Michael Sharp et Zaïda Catalan. Les détails de Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
Pour cette vidéo d'environ 5 minutes, on sait voir les deux experts de l'ONU en train d'être fusillés à bout portant par leurs accompagnateurs et bourreaux. Le premier à être exécuté, c'est l'Américain. Et la Suédo-Chilienne qui voulait s'interposer a reçu 2 balles avant d'être décapité à son tour. Cette vidéo laisse croire que les deux experts onusiens étaient tombés dans un piège leur tendu par leur bourreau qui prétextait les accompagner découvrir des fosses communes. Par contre, aucune allusion au Congolais présenté comme l'interprète des experts onusiens lui est également donné pour mort. Selon le porte-parole du gouvernement Lambert Mende Omalanga, certaines personnes qui figurent sur les images ont déjà été arrêtées. Une autre vidéo d'environ 14 minutes a été présentée aux représentants des médias congolais et étrangers. Elle montre un groupe de policiers subissant un interrogatoire en Lingala et en Chiluba dans un village du Kasaï. D'après le colonel Piero Mwanamputu, porte-parole de la police nationale congolaise, il s'agit de 53 policiers dont 39 ont, selon la police nationale, été tués en mars dernier à Kamwesha, à 67 km de Chikapa. Pour finir, le ministre de la Communication et Média a rappelé qu'il est hors de question de négocier avec ces gens-là. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Burundi, le 26 avril 2015, des milliers de personnes se réunissaient au lendemain de la désignation de Pierre Nkurunziza par son parti comme candidat à la présidentielle. Coup d'envoi de 6 semaines de manifestations à Bujumbura, sévèrement réprimé. 2 ans après le début d'une crise politique majeure, le Burundi est plus que jamais dans l'impasse. Salwa Jafari.
L'annonce le 25 avril 2015 de la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat controversé avait déclenché un vaste mouvement de contestation populaire sévèrement réprimé et plongé le pays dans la crise. En 2 ans, les violences et exécutions extrajudiciaires ont fait entre 500 morts selon l'ONU, 2000 selon les ONG et poussé 400 000 Burundais à l'exil. Le gouvernement burundais assure pourtant le contraire. La crise est derrière nous. C'est le message qui revient le plus dans les déclarations officielles. Mais selon l'opposition, le parti au pouvoir et la Ligue de ces jeunes, les Imbonerakure, ont pris le pays dans leur serre et sont en train de l'étouffer petit à petit.
Nouvelle tension diplomatique entre Alger et Rabat. L'Algérie a convoqué hier l'ambassadeur marocain suite aux accusations du royaume chérifien faisant état de l'expulsion de réfugiés syriens vers le Maroc. Abdourahmane Dia.
L'Algérie n'a pas aimé les déclarations du Maroc ce week-end, faisant état de 55 réfugiés syriens expulsés dans le but de semer le trouble à la frontière et générer un flux migratoire incontrôlable. Et toujours selon Rabat, il y avait des femmes et des enfants dans le groupe et ils étaient dans une situation très vulnérable. Dans un communiqué de presse, le ministère algérien des Affaires étrangères a révélé avoir convoqué l'ambassadeur du Maroc afin de lui signifier le rejet des allégations qualifiées de mensongères et lui démontrer le caractère totalement infondé de ces accusations. Pour Alger, c'est plutôt le Maroc qui a tenté d'expulser un groupe de réfugiés vers l'Algérie. Selon une source contactée par l'AFP dans une ville frontalière, les migrants syriens étaient toujours coincés samedi dans un no man's land entre les deux pays, sans accès à de l'eau ou de la nourriture. En mars dernier, des organisations de défense des droits humains avaient dénoncé le traitement de migrants d'Afrique subsaharienne à la frontière entre les deux pays. Une trentaine de migrants étaient bloqués dans le no man's land entre le Maroc et l'Algérie après avoir été refoulés par les autorités des deux pays. Cette frontière est fermée depuis 1994.
La Cour pénale internationale a rendu public lundi un mandat d'arrêt contre l'ex-chef de la sécurité du défunt leader libyen Muammar Kadhafi, l'accusant de crimes de guerre en 2011. Le mandat qui date de 2013 mais était scellé accuse Mohamed Khaled al-Touami, ancien chef du service de sécurité intérieure libyen, de 7 chefs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité comme torture, empoisonnement et persécution selon un communiqué de la Cour. Le Conseil de la République angolaise, dirigé par le président José Eduardo dos Santos, a fixé au 23 août prochain la date des élections générales qui doivent marquer la fin du règne de 38 ans du chef de l'État sortant. Le président dos Santos doit maintenant formellement convoquer les 9,6 millions d'électeurs angolais. Au pouvoir depuis 1976 à 74 ans, il a renoncé à se présenter pour un nouveau scrutin. Et puis on termine cette page de news africaine avec le Sénégal, suite du festival international de jazz à Saint-Louis. C'est la 25e édition. Événement moteur de cette ville du Nord à 270 km de Dakar. Parmi les têtes d'affiche cette année, l'Américain Marcus Miller, le Congolais Lokua Kanza ou encore le Sénégalais Sherlo.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Week-end électoral oblige. En France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront le 7 mai pour la présidence à l'issue d'un premier tour historique qui voit le candidat de la droite républicaine François Fillon éliminé et la gauche socialiste décimée. Jacques Aristide.
Emmanuel Macron relève un pari jugé fou il y a encore un an avec un positionnement idéologique inédit, ni droite ni gauche, avec son mouvement En Marche. Il s'est placé en tête avec environ 23% des suffrages. La plupart des grands perdants ont appelé à voter pour lui dans deux semaines. À 39 ans, cet ancien banquier serait bien placé, selon les instituts de sondage, pour devenir le plus jeune chef d'État de la 5e République française. Mais rien n'est joué. C'est la seconde fois sous cette même 5e République que l'extrême droite accède au second tour d'une présidentielle. Marine Le Pen, la fille du cofondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, obtient un record d'environ 22% des suffrages. Affirmant que la survie de la France était en jeu, Marine Le Pen a lancé un appel en faveur de l'alternance fondamentale. En campagne ce lundi, elle a insisté sur la lutte contre le terrorisme et ce qu'elle appelle la mondialisation sauvage, deux thèmes par lesquels elle entend se démarquer de son adversaire. Avec la défaite de François Fillon, c'est la première fois que la droite républicaine est éliminée au premier tour. À gauche, le Parti socialiste avec son candidat Benoît Hamon a également subi la plus cuisante des débâcles depuis la présidentielle de 1969. Des heurts impliquant notamment des manifestants d'ultra-gauche ont éclaté hier soir à Paris. 6 policiers et 3 manifestants ont été légèrement blessés et 29 personnes ont été placées en garde à vue.
Et puis je vous rappelle que les résultats définitifs ont été annoncés. 24,1% pour Emmanuel Macron, 21,30% pour Marine Le Pen, 20,01% des voix pour François Fillon, devant les 19,58% de Jean-Luc Mélenchon. Ici aux États-Unis, des sanctions financières lundi ont été annoncées contre 271 scientifiques d'un centre syrien de développement d'armes non conventionnelles en réponse à l'attaque au gaz toxique de début avril en Syrie. C'est ce qu'a indiqué le Trésor américain. Et puis Barack Obama exhorte les jeunes à se mettre au service de leur communauté en devenant des activistes. S'exprimant publiquement pour la première fois depuis son départ de la Maison Blanche, l'ancien président américain a rappelé à des collégiens et des étudiants réunis à Chicago qu'il était lui-même organisateur communautaire avant de briguer des postes électifs. Barack Obama a dit qu'il espère préparer la prochaine génération à prendre la relève. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. C'est l'heure déjà de votre rendez-vous avec la Minute Éco, l'actualité économique sur le continent avec Jacques Aristide cette semaine.
Le rapport de Quantum Global sur l'attractivité des pays africains pour les investissements internationaux révèle que 24 nations ont connu des ascensions fulgurantes en comparant les chiffres de l'an dernier à ceux des trois années précédentes. C'est le cas notamment du Swaziland, de Djibouti, du Rwanda, de Sao Tomé, du Burkina Faso, de la Tanzanie, de l'Ouganda et de la Guinée. Mais 26 pays du continent sont dans le camp des mauvais élèves. L'Algérie, l'Angola, le Gabon, la Libye, la Guinée équatoriale et les Seychelles sont parmi ceux qui ont le plus reculé ces trois dernières années. GE Power, filiale de General Electric, a signé aujourd'hui un important contrat de plus de 3 milliards de dollars avec la société algérienne de distribution d'électricité et du gaz, la Sonelgaz. Il s'agit du plus important contrat de partenariat de l'histoire pour GE Power. L'accord vise notamment à garantir des opérations et services de maintenance à long terme pour 10 centrales Sonelgaz à travers l'Algérie, ce qui devrait permettre de générer 11 gigawatts d'électricité. Libreville et Alger viennent de signer un accord qui permettra aux avions des deux compagnies algériennes, Air Algérie et Tassili Airlines, de desservir le Gabon. Le contrat concerne aussi bien le transport de passagers que le fret sur la base de la réciprocité conformément à la législation en vigueur dans les deux pays.
Et on retrouve les sports avec vous, Eric Manirakiza. Bonsoir.
Bonsoir, Tatiana.
Retour sur le Classico Real-Barça, les Catalans redeviennent leaders de la Liga.
Belle victoire du Barça arrachée dans le temps additionnel avec un doublé de Lionel Messi. Du coup, il a relancé un Barça moribond quelques jours après sa déroute en Ligue des Champions face à la Juve. Le Catalan redevient donc leader à la différence de but devant le Real, mais à égalité de 75 points. En revanche, l'équipe merengue garde son destin en main en Liga avec un match en retard. Et ce Classico a permis à Lionel Messi d'atteindre 500 buts sous le maillot catalan.
En Coupe de France, le PSG, un autre Argentin, domine les débats.
L'on parle d'Angèle Di Maria avec sa patte gauche dans le sprint final. Sur ses 5 derniers matchs, le natif de Rosario a marqué 5 buts du pied gauche, habile dans les dribbles. Di Maria aime repiquer dans l'axe pour enrouler une frappe du gauche. L'Argentin est le deuxième le plus cher transfert de l'histoire du championnat de France, 63 millions d'euros en provenance de Manchester United à l'été 2015.
Et puis tennis, Serena Williams fête sa grossesse en reprenant la tête du classement WTA.
Elle attend un enfant pour cet automne. À l'annonce aujourd'hui de ce classement féminin, Serena Williams, sur son compte Instagram, a écrit à son futur bébé qu'elle doit mettre au monde en septembre. « Mon bébé, tu m'as donné une force que j'ignorais posséder. Tu m'as enseigné la véritable définition des mots sérénité et paix. Je suis si impatiente de te rencontrer. Je suis si heureuse de partager ma place de numéro 1 mondial avec toi. » Ta maman a-t-elle rédigé.
Magnifique. Et puis un mot de basket, Cleveland balaye l'Indiana, Utah et Gobert lessive les Clippers.
Cleveland a décroché son billet pour le deuxième tour des playoffs après sa quatrième victoire consécutive contre Indiana 106-102 hier, tandis que Utah s'est relancé face aux Clippers 105-98. À l'Est, toujours le duel entre Boston et Chicago est complètement relancé après la deuxième victoire consécutive des Celtics sur le parquet des Bulls 104-95. Enfin, Oklahoma City et Russell Westbrook sont au bord de l'élimination.
Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, de retour avec vous, Tatiana Mosso, toujours en direct du studio 9, place à nos dossiers en direct. Et on prend la direction de la France. Le premier tour de l'élection présidentielle a eu lieu hier dimanche. Deux candidats sont en lice pour le second tour. Emmanuel Macron, 39 ans, à la tête d'En Marche, son parti créé il y a 18 mois. L'ancien ministre de l'économie de François Hollande a récolté 24% des voix devant Marine Le Pen, candidate du Front National, qui elle a remporté 21,30% des suffrages. Comment comprendre ce choix des Français, un outsider face à une candidate de l'extrême droite? Anastasie Tudiech a posé la question à Pascal Blanchard, historien français spécialiste de l'histoire des immigrations.
Trois raisons expliquent que la société française certainement est en rejet d'une partie de la politique classique et de ses élites politiques. Le premier constat, c'est qu'il y a un rejet structurel des grands partis qui ont fondé la vie politique française depuis maintenant près de 30 ans, de droite et de gauche traditionnelle, le Parti socialiste d'une part et la droite conservatrice de l'autre. Deuxièmement, il y a aussi un rejet des individus d'une certaine manière, d'une volonté d'une forme de nouvelle génération, soit d'une génération qui n'a jamais été au pouvoir, type le Front National avec Marine Le Pen, ou Emmanuel Macron qui symbolise une nouvelle génération à travers son âge et son discours, ni droite ni gauche. Enfin, dernier point, il y a une forme d'attrait pour des hommes ou des femmes qui, à travers leur personne, vont transcender et dépasser les partis politiques comme s'ils amenaient des solutions miracles aux problèmes de la France. D'une part, avec le Front National, un rejet de l'immigration, un rejet des politiques jusqu'alors menées en place. Et de l'autre côté, avec Emmanuel Macron, une vision extrêmement positive, ouverte sur l'avenir. L'un vent du déclin, l'autre du rêve. Et les deux ont donc correspondu pour pratiquement 50% de l'électorat français à une sorte d'un autre devenir, d'un autre destin.
Ça n'est pas la première fois que le Front National arrive sur le podium. En 2002, le père de Madame Le Pen, Jean-Marie Le Pen, arrivait lui aussi en deuxième position avec 16,86% des voix derrière Jacques Chirac. 15 ans plus tard, Madame Le Pen fait donc mieux que son père. Qu'est-ce qui a changé ?
Elle fait mieux que son père, mais il faut jamais oublier qu'à l'époque, le Front National était aussi en concurrence avec le parti, d'autres partis d'extrême droite. Donc les scores ont toujours tourné entre 16, 17, 20% depuis à peu près une quinzaine d'années. En même temps, on découvre qu'il a beaucoup de mal à fédérer autour de son nom ou autour du nom de Marine Le Pen pour un second tour d'autres partis politiques.
Emmanuel Macron, président ?
Emmanuel Macron, président, c'est presque une certitude électorale, même s'il ne faut pas parier sur ce qui sont des évidences ces derniers temps, aussi bien en France qu'à l'étranger, sur qui va gagner. Ça l'est pour une raison qui est assez simple. Il y a encore un rejet profond pour une partie de la droite, pour une grande partie de la gauche et pour une grande majorité des électeurs du refus de voir les ténèbres que serait l'élection de Marine Le Pen. Mais c'est certainement la dernière fois.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que les gens vont accepter l'idée que le Front National est un parti normal. La moitié du chemin est déjà fait, nous l'avons vu à travers le type de campagne qu'a fait Marine Le Pen. Elle est en train de se notabiliser. Il commence même à y avoir des gens issus des élites qui appellent à voter au Front National. Regardez, Madame Boutin, les ambiguïtés de certains sur le second tour démontrent que maintenant, le diable n'est plus le Front National. Quelque part, elle a réussi un de ses premiers paris, c'est de se dédiaboliser. Et le prochain pari, qui est le sien, ce sera de se normaliser. Et ça, ce seront les législatives dans quelques semaines.
Pascal Blanchard, historien français spécialiste de l'histoire des immigrations. Et cet espoir sur le continent. L'Organisation mondiale de la santé vient de lancer un premier test à grande échelle pour un vaccin antipaludique en Afrique. Ce programme pilote sera mené au Kenya, au Ghana et au Malawi, trois pays ayant déjà participé à des tests à plus petite échelle. Solange Nyamuliza a joint Eliane Führer, experte de l'OMS, en appui au projet pilote de vaccin antipaludique.
Le vaccin a été évalué dans le cadre d'un vaste essai de phase 4 qui est fini en 2014. Et donc maintenant, c'est pour la première fois que le vaccin va être utilisé dans les programmes de routine. Et on pense, après une phase préparatoire, les premières vaccinations vont avoir lieu en mi-2018. Ça va nous fournir les données et l'expérience pour les trois pays pour après voir si c'est faisable de donner ce vaccin à une échelle plus large.
À peu près 90% des gens souffrent de la malaria sur le continent africain. Est-ce que grâce à ces vaccins, la lutte va être améliorée?
On a vu lors des essais cliniques qui ont été menés précédemment que le vaccin permet de réduire le nombre des épisodes paludiques. Et selon ces tests, on a vu que de 10 cas, on arrive à réduire ou à éviter 4 cas. Donc c'est assez prometteur. Mais ça veut aussi dire qu'il faut continuer à utiliser tous les autres outils à disposition pour prévenir la maladie, la traiter, la diagnostiquer. Et donc, tous les efforts doivent continuer. On doit aussi augmenter les efforts pour tous les outils existants. Et le vaccin pourrait être un autre outil à rajouter dans cette lutte.
Est-ce que le pays va pouvoir contribuer ou il faudrait payer pour être vacciné?
Pendant la phase pilote de ce projet, le vaccin va être mis à disposition de manière gratuite par les fabricants. Donc il ne va pas avoir de coût pour les trois pays qui participent. Il faut aussi mentionner qu'on va utiliser le système des pays. Donc, leur système de routine de distribution de vaccins, donc ils contribuent par ce système au projet. Plus tard, ce projet pilote va nous permettre d'évaluer la faisabilité d'atteindre ces enfants avec les 4 doses du vaccin. Et ça va permettre à l'OMS de faire une recommandation par rapport à l'utilisation à l'échelle plus large. Et donc, ça sera à ce moment-là que on va voir sous quelles conditions le vaccin peut être mis à disposition. Mais la compagnie pharmaceutique a publiquement annoncé qu'ils ne vont pas chercher un prix de marché pour ce vaccin. Donc, ils vont mettre ce vaccin à disposition à un prix de production. Et donc, je crois que tous les acteurs ils sont intéressés que le prix ne soit pas un obstacle à l'accès.
C'était Eliane Führer, experte de l'OMS en appui au projet pilote de vaccin antipaludique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Autre sujet de société aussi important sur le continent, quelques 4471 cas de grossesse en milieu scolaire ont été enregistrés depuis le début de la rentrée 2016-2017 dans le secondaire général en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'indique une étude de la Direction des stratégies, de la planification et des statistiques du ministère de l'Éducation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Notre correspondante Narita Namasté a rencontré des élèves victimes dans la capitale économique ivoirienne.
C'est mon enfant. On n'a pas revu le père de la grossesse.
Yasmine a 16 ans et elle est en classe de 4e. Elle vient d'être mère d'un bébé de 2 semaines. Issue d'une famille en situation financière difficile, dans un quartier précaire de Yopougon, Lokojo, Yasmine a été abandonnée par son père génétique, aussi par l'auteur de sa grossesse.
Moi, avec un camarade, il est en même classe que mon 4e. On est sortis ensemble. Moi, mais je ne savais pas qu'il était enceinte. C'est après que j'ai su qu'il était enceinte. Moi, mais j'avais peur de rentrer à la maison. Je me suis cachée, je suis partie chez ma camarade. C'est pour ça qu'il n'y avait plus à l'école. Mais j'ai honte de partir à l'école. Donc j'ai arrêté de partir à l'école. Les parents du jeune homme disent qu'il n'a pas d'argent, qu'il ne peut pas s'occuper de la grossesse.
Comme Yasmine, elles sont nombreuses ces jeunes filles qui sont obligées d'abandonner leurs études pour des raisons de grossesse en plein milieu scolaire. Les raisons évoquées par ces jeunes filles sont pour la plupart liées aux besoins financiers. Zobo Christelle vient d'être mère à 15 ans et elle est en classe de 4e.
C'est le manque d'argent, le manque de moyens qui m'a poussée à faire ça. Puis j'ai pris une grossesse. Malgré les regards de mes amis et la manière de parler, j'ai continué d'aller à l'école. Quand j'ai eu accouché, je ne suis plus partie à l'école jusqu'en prison. Mais je compte retenir.
Le gouvernement ivoirien avait lancé une campagne zéro grossesse en milieu scolaire. Une politique qui ne se porte pas au mieux de ses intentions. Des ONG décident de prendre les choses en main pour éradiquer ce fléau dans ce pays qui vise l'émergence d'ici 2020 en comptant sur sa jeunesse. Diama Luzette nous fait l'état des lieux.
Cependant, de septembre à février 2016-2017, nous avons eu 4471 cas de grossesse déclarée. Nous constatons que le taux qui était en baisse est légèrement en tentait de remonter. Parmi les villes de l'intérieur, cela était le plus touché. Pourquoi? Parce que nous avons constaté la situation socio-économique défavorable, c'est-à-dire la pauvreté. Nous allons visiter des écoles. Pendant ces ateliers, nous allons éduquer ces jeunes élèves sur les risques liés aux grossesses en milieu scolaire pour qu'ils prennent en compte leur avenir et leur santé.
Parler de sexe avec ses enfants reste encore un sujet tabou ici en Côte d'Ivoire.
Moi, vraiment, je trouve pas normal de causer du sexe avec ma fille. Peut-être avec les garçons, mais avec les femmes. Tu sais, la coutume voudrait qu'on reste séparé de ces mots-là pour ne pas encourager nos enfants.
En Côte d'Ivoire, l'âge du premier rapport sexuel se situe entre 12 et 17 ans. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Guinée, le livret promu avec faste depuis dimanche à Conakry, sa capitale mondiale pour un an. Le coup d'envoi officiel de cette célébration a été donné dimanche après-midi lors d'une cérémonie en présence de nombreuses personnalités du monde de la culture sous la présidence du chef de l'État guinéen Alpha Condé à l'espace d'exposition Blue Zone à Kaloum. Correspondance de Zakaria Camara.
Welcome, bienvenue, chante cet artiste guinéen juste après le discours d'ouverture du président Alpha Condé, discours qui lance les activités de Conakry, capitale mondiale du livre. Le président guinéen a visité le premier stand, celui du Sénégal, pays invité d'honneur dont la délégation se réjouit. Banik Ndiaye, ministre sénégalais de la culture et de la communication.
Qui sait la place que le Sénégal a occupée et continue d'occuper sur le plan africain et sur le plan mondial pour la promotion, la diffusion de la culture, c'est véritablement un choix qui arrive à son heure.
Quelques minutes plus tôt, le président Condé mettait un accent sur la promotion de la littérature orale.
Nous lançons un appel pour ne pas oublier nos griots, dépositaires de nos cultures et nos sages dans les villages. Nous devons faire en sorte que la tradition orale soit transcrite dans les livres afin que notre peuple renaisse avec son histoire.
Plusieurs sites sont retenus pour l'occasion. Au centre culturel franco-guinéen, par exemple, au moins 20 exposants proposent des ouvrages variés aux visiteurs. Marie-Madeleine, directrice de la bibliothèque de l'ambassade des États-Unis à Conakry.
L'objectif, c'est de partager la culture américaine via les livres, via les films, via les programmes qu'on fait.
Le Guinéen lit peu, c'est un constat, mais aussi c'est parce qu'il n'y a pas assez de bibliothèques. Jonathan Paul est conservateur à la Bibliothèque nationale de France. Il propose aux visiteurs des livres numériques.
Le livre numérique peut être une solution. Il y a certains aspects de praticité. C'est-à-dire que voilà, comme je vous ai dit, sur mon téléphone, je peux avoir 20, 50, 100 livres téléchargés sur mon téléphone.
Pendant une année, Conakry sera un espace de réflexion et d'échange sur le livre. Conakry, capitale mondiale du livre, est lancée en marge des 72 heures du livre. Plusieurs activités sont prévues. Des colloques, expositions, vente de livres, conférences, signatures de livres, soirées littéraires et culturelles. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Joselle Morissin, à la console Wagner Roberts, à la présentation Tatiana Mosso. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste connecté sur Facebook et sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Bonne soirée à vous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.